Je le crois volontiers, s'écria le hutin, car je leur ai inspiré grand-peur l'été passé, et ils viendront sans doute à Mercy sans bataille, avant la saison des chevauchées. C'est une étrange impression que de regarder un homme avec la quasi-certitude qu'avant 6 mois il sera mort, et de l'entendre faire des projets pour un avenir qu'il ne verra probablement pas. À moins qu'il ne dure jusqu'à novembre, se disait Martin. Car en dehors de la redoutable échéance de juin, l'astrologue avait décelé un second aspect funeste, une méchante direction de Saturne à 27 ans et 44 jours de la naissance de Louis. 2 conjonctions de fatalité à 6 mois d'intervalle. Si vraiment il engendre, la seconde se rencontrerait alors avec la naissance de l'enfant. De toute manière, ce ne sont pas choses à dire. Pourtant, avant de partir, la paume garnie d'une bourse que le roi venait de lui tendre, Maître Martin se sentit tenu d'ajouter « Sire, un mot encore pour la sauvegarde de votre santé. Défiez-vous des venins, surtout au déclin du printemps. »«
Faut-il m'abstenir des mousserons, girolles et morilles ?» demanda Louis. « J'en suis friand, mais il est vrai qu'ils m'ont causé parfois des dérangements d'entrailles. »
Puis, soudain soucieux,
« Venins ? Entendez-vous les morsures de vipères ?»«
Non, sire. Je parle bien des nourritures de bouche. »
Ah bien, je vous sais gré du conseil, maître Martin.
Aussitôt, tandis qu'il se dirigeait vers la chambre de justice, Louis prescrivit à son grand chambellan qu'on redoublât de surveillance aux cuisines, qu'on s'assurât de n'employer que des denrées de provenance connue, et qu'on fit éprouver tous les mets 2 fois au lieu d'une avant de les lui servir. Puis il entra dans la grande salle où l'assistant s'était levé et attendait qu'il fût installé sous le dais. Bien assis, les pans de son manteau ramenés sur les genoux et la main de justice un peu inclinée dans la saignée du bras, Louis se sentit pareil un instant au seigneur du ciel sur les vitraux d'église. À sa droite et à sa gauche, ses barons bellement vêtus inclinaient la tête dévotement. Il y avait quand même des moments de satisfaction dans le métier de roi. Et Louis faisait durer son plaisir.
« Voilà, pensait-il, je vais rendre ma sentence et chacun va s'y conformer. Et je vais rétablir la paix et la bonne harmonie parmi mes sujets. »
Devant lui se tenaient les 2 parties entre lesquelles il allait rendre arbitrage. D'un côté, la comtesse Mao, dépassant de la tête et de la couronne ses conseillers groupés autour d'elle. De l'autre, la délégation des alliés d'Artois. Il y avait chez ces derniers un certain manque d'unité dans l'apparence, car chacun avait mis ses meilleurs vêtements qui n'étaient pas toujours à la dernière mode. Ces petits seigneurs sentaient leur province. Soistre et Caumont s'étaient affublés comme pour paraître en tournoi, et semblaient un peu embarrassés de leur aume qu'ils portaient à la main, devant la poitrine. Les grands barons désignés pour assister le roi avaient été sagement choisis en nombre égal parmi les amis des 2 camps. Charles de Valois et son fils Philippe, Charles de Lamarche, Louis de Clermont, Béraud de Mercœur et surtout Robert d'Artois lui-même constituaient le soutien des alliés. On savait que de l'autre part, Philippe de Poitiers, Louis d'Evreux, Henri de Sully, les comtes de Boulogne, de Savoie, de Forez et messire Mille de Noyers donnaient appui à Mao. « In nomine patris et fili !» Les assistants se regardèrent surpris. C'était la première fois que le roi ouvrait séance par une prière et appelait sur ses décisions les lumières divines.
« On nous l'a changé !» souffla Robert d'Artois à Philippe de Valois. « Le voilà maintenant qui se prend pour évêque en chair !»
Mes bien chers frères, mes bien chers oncles, mes bons cousins, mes bien-aimés vassaux, nous avons le désir très grand et le devoir, par commission de Dieu, de maintenir la paix en notre royaume et de condamner la division entre nos sujets. »
Louis, qui souvent bredouillait en public, s'exprimait cette fois d'une parole lente mais claire, vraiment. Il se sentait inspiré, et l'on se demandait à l'écouter ce jour-là si son véritable destin n'eût pas été de faire un bon vicaire en un modeste bailliage. Il se tourna d'abord vers la comtesse Mao et la pria de suivre ses conseils. Mao répondit
« Sire, je ne désire rien tant que la concorde et souhaite pouvoir en tout vous complaire. »
Le roi adressa aux alliés ensuite la même recommandation.
« Sire, répondit Gérard Quirez, nous n'avons d'autre vouloir que l'apaisement et nous montrez vos fidèles vassaux. »
Louis regarda autour de lui ses oncles, frères et cousins.
« Voyez, semblait-il dire, comme j'ai bien su arranger toute chose. »
Puis l'assemblée s'assit, et le chancelier Étienne de Bornay lut la sentence d'arbitrage qui débutait par une déclaration d'intention. Le passé, selon la formule chère au roi, était oublié, et les haines, offenses et rancunes pardonnées de part et d'autre. La comtesse Mao reconnaissait ses obligations envers ses sujets. Elle s'engageait à maintenir bonne paix au pays d'Artois, à n'exercer aucune représaille sur les alliés, ni chercher aucune occasion de leur causer mal ou nuisance. Elle scellerait, comme le roi l'avait fait, les coutumes en usage au temps de Saint-Louis, et qui seraient prouvées devant elle par gens dignes de foi, chevaliers, clercs, bourgeois, avocats. Louis X écoutait à peine. Ayant dicté la première phrase, il estimait avoir tout fait. Le détail des dispositions juridiques dont il avait laissé la rédaction à Mornay ne l'intéressait guère, sa pensée dérivait ailleurs. Il était en train de compter sur ses doigts. Février, mars, avril, mai, ainsi ce serait donc vers novembre qu'il me naîtrait un héritier.